comme ça, je ne veux pas, c'est mon droit.
Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Un jeudi sur deux.
De 19h à 20h. Une heure de féminisme.
Sur Radio Campus Grenoble, 90.8.
Bonsoir. Alors, vous êtes sur Radio Campus avec Dégenré. Et ce soir, on est en présence de Fabienne et Lucille Ruault. Lucille Ruault, qui est autrice du livre « Le spéculum, la canule et le miroir », un livre qui parle des luttes du MLAC et en relation aussi avec la loi Veil qui a dépénalisé l'avortement en France. Et à la technique, il y a Alice et Adèle. Et donc, on est ravis d'avoir ces invités avec nous ce soir pour parler donc de ce livre. Le MLAC, le mouvement de libération pour la libération de l'avortement et de la contraception, et donc qui est le spéculum, la canule et le miroir, qui est un livre édité à ENS Éditions et qui est basé sur ta thèse, Lucille.
Oui, bonsoir.
Alors, est-ce que tu veux dire deux mots pour te présenter ?
Oui, donc je suis sociologue dans un laboratoire qui s'appelle le CERMES 3, donc de sciences sociales de la santé. Et voilà, et donc j'ai fait cette thèse qui porte sur des groupes MLAC, donc du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, et aussi des groupes self-help, de self-help féministes en France, donc entre 1972-13 et 1984. Donc c'était une thèse de socio-histoire.
Et c'est le titre de ta thèse ou le titre de ton livre ?
Eh oui, alors l'ambiguïté, enfin, j'aimais décidément beaucoup mon titre de thèse, c'était le titre, le premier titre de la thèse, et c'est resté le titre du livre parce que bah, j'ai pas trouvé mieux. Ce titre, bah, il est bien pratique à plein de niveaux. Bon, alors en plus, spéculum, canule, miroir, ça correspond aux trois parties de la thèse et du livre. Donc c'est chronologique. Et puis il y avait quand même une importance pour moi à reprendre des outils dans le titre. Et ces trois outils qui sont utilisés par la plupart des groupes qui militent pour l'avortement libre. Et puis, ils ont évidemment un sens symbolique dans le titre. Donc, le spéculum, pour le coup, il est utilisé par non seulement tous les groupes qui ont fait des avortements entre 1973 et à minima 1975, mais bien avant par des femmes et des médecins qui avant faisaient des avortements clandestins. Donc c'est ce qui permet de maintenir ouvert la cavité vaginale pour accéder au col de l'utérus avec un instrument. Et puis dans un sens plus métaphorique, c'est l'idée d'ouverture, donc pour comprendre comment le mouvement se met en place. Dans le livre, c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. La canule, c'est l'outil qui permet d'aspirer le contenu de l'utérus, donc qu'on appelle la canule d'aspiration, et donc que les groupes MLAC ont beaucoup utilisé. Il y a des canules de plusieurs tailles. Enfin, la canule, c'est vraiment l'instrument très important qui est partagé par tous ces groupes. Et le miroir. Qui était considéré comme un outil important, au moins en théorie, par tous les groupes MLAC. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir quel groupe a plus systématiquement utilisé le miroir, non seulement pour les avortements, mais aussi pour plein d'autres actes qu'on dirait aujourd'hui gynécologiques, mais qu'on pourrait tout à fait sortir de ce vocabulaire médical, en tout cas qui permettent d'observer l'intérieur de son corps, vagin, puis de voir le col d'utérus pour les premières concernées. Et donc ce miroir, il a été plus utilisé par des MLAC de non-médecins et aussi par les groupes de self-help. Et il a été vu par les militants du self-help états-unien qui sont un peu les pionnières du self-help. C'est le spéculum et le miroir. C'est vraiment le duo d'enfer pour aborder le self-help à leurs yeux. Il faut la lampe de poche, mais pour voir l'intérieur et renverser les représentations très négatives qui ont concours sur le corps des femmes et qui vont aussi avec cette idée que c'est une idée très naturalisante qu'on entend encore largement aujourd'hui, que comme l'appareil génital des femmes est intérieur, alors ça détermine ce rapport à son corps. Alors que voilà, tout ça peut être renversé assez facilement, et ces outils-là ont été importants pour dire qu'il n'y a pas question d'une extériorité ou d'une intériorité pour comprendre après comment les femmes se comportent et quel rapport elles entretiennent à leur corps.
Très bien, merci. C'est un beau titre en tout cas. Et comme tu dis, c'est une thèse de socio-histoire. Et du coup, est-ce que tu veux nous retracer un peu historiquement, en tout cas le début des mouvements pour la liberté d'avortement et de contraception ?
Alors, il y a toujours une difficulté à dire le début. Alors, le MLAC, en effet, démarre en 1973, mais ce qui a souvent été sous-estimé, c'est des formes de continuité très discrètes, très souterraines, en fait, avec d'anciens... alors, on ne peut pas parler de mouvements, des réseaux de solidarité organisés très localement, plus ou moins gros. À Grenoble, il y avait des groupes... alors, pareil, est-ce qu'on peut parler de groupes ? En tout cas, des réseaux de médecins, d'étudiants en médecine. Mais voilà, moi, j'en ai vu à Marseille, à Lille, à Paris. Enfin, voilà, des médecins qui étaient impliqués dans des réseaux d'avortement et puis évidemment aussi des non-médecins qui, de très longue date, et puis les femmes ont toujours avorté, donc que ce soit en se débrouillant par leurs propres moyens et pour le coup parfois de manière très, très, très solitaire, ou avec des réseaux d'entraide, voilà, elles ont avorté, et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Des personnes qui avaient de longue date participé à ces réseaux se sont engagées parfois dans des MLAC par la suite. Mais pour revenir au MLAC, donc il est né en avril 1973, et principalement de deux branches. D'un côté, le mouvement français pour le planning familial, qui depuis 1956, sous le nom de Maternité Heureuse, avait commencé à démanteler la loi de 1920, qui interdisait et la propagande et la pratique autour de la contraception et de l'avortement. La première victoire, c'est en 1967, la loi Neuwirth, qui légalise la contraception. Par la suite, le planning familial a beaucoup de mal à prendre, à aborder le tournant avortement, parce qu'en fait, les générations qui s'étaient battues pour la contraception ont rigidifié la frontière entre contraception et avortement. Ce qui était beaucoup promu, c'était la contraception pour lutter contre le fléau de l'avortement. Donc à partir du moment où on part de cette conception, c'est très compliqué de passer à une revendication pour l'avortement libre.
Mais, parce que ça fait un truc où les gens disent il n'y a plus besoin d'avortement puisqu'il y a la contraception.
Exactement. C'était une idée, une illusion très très forte, et que j'ai retrouvée dans des MLAC, même bien après, donc des militants qui militaient vraiment pour l'avortement, mais qui en fait entretenaient l'espoir que avec la diffusion massive de la contraception, il n'y aurait plus d'avortement. Et ça, c'est même au bout de plusieurs années. Donc, c'est quand même resté très fortement dans les esprits. Et d'ailleurs, les militants les plus âgés du planning familial quittent le planning familial en juin 73. Donc là, c'est vraiment le tournant du planning qui décide d'une entrée dans la campagne pour l'avortement libre. Mais notamment des médecins les plus âgés s'en vont en s'opposant à ce changement-là. Et puis, l'autre pilier important, c'est donc des groupes de médecins critiques, et en particulier le GIST, le groupe Information Santé, qui veut travailler sur l'avortement. Je dis travailler parce qu'au départ, c'était plutôt un abord assez théorique, de revendication, mais sans pratique. Et qui, en 1972, au même moment d'ailleurs que des étudiants en médecine et quelques médecins grenoblois, se forment à une méthode qu'ils et elles appellent la méthode Karman, donc qui est la méthode par aspiration avec une canule en plastique flexible qui évite les perforations utérines et qui, à partir de ce moment-là, s'empare de cette technique et la promeut. Alors d'abord, expérimente la technique pendant un certain nombre de mois et, à partir de février 1973, déclare publiquement pratiquer des avortements avec cette technique et a besoin d'un soutien massif. Et donc l'idée même de créer le MLAC, à l'origine, même si on a un peu tendance à l'oublier, c'est pour défendre ces médecins qui pratiquent régulièrement des avortements.
Et qui le revendiquent.
Et une défense non seulement par rapport à de potentiels procès, mais aussi par rapport au Conseil de l'Ordre, extrêmement conservateur, et donc avec des sanctions disciplinaires qui étaient possibles. Et le pari a été complètement gagné, puisqu'en fait, très rapidement, à travers la France, des dizaines et bientôt centaines de comités MLAC se forment. Le mouvement est tellement massif que, de toute façon, le pouvoir ne peut pas vraiment réagir. Alors, je dis MLAC, je le précise d'emblée. En fait, il y a plein de groupes qui ne portent pas l'étiquette MLAC, ou pas que l'étiquette MLAC, puisqu'à la même époque, il y a aussi l'association Choisir, pour choisir la cause des femmes, donc l'association créée par Gisèle Halimi, avec un répertoire d'action plus légaliste. Et c'est notamment le cas à Grenoble, hein. C'est d'abord un groupe Choisir, et ensuite il y a des conflits en interne sur l'importance et la légitimité de ce répertoire d'action directe qui consiste à pratiquer l'avortement, et donc avec des sections dissidentes dont fait partie Grenoble, et donc qui devient un MLAC Choisir, ou un Choisir MLAC selon d'autres villes, mais en tout cas on a des groupes qui... tous ensemble reprennent ce répertoire militant.
Et du coup, les groupes MLAC ou les groupes Choisir sont en lien avec les groupes GIS, avec les GIS.
Alors en fait, le GIS, il existe, en gros, il naît un an avant et il est plutôt focalisé, à l'origine aussi, sur d'autres combats qui sont plutôt liés à la santé des ouvriers et à la santé des travailleurs immigrés en particulier. Par exemple, le féminisme dans le GIS, ce n'est pas là. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est l'avortement qui va donner toute sa réputation au GIS. Et donc, en réalité, les médecins qui militent sur l'avortement rentrent au MLAC, et c'est à travers le MLAC que ces médecins vont agir. Donc le GIS, évidemment, l'acronyme, il veut dire quelque chose pour les militants et militantes du MLAC. C'est les médecins critiques qui ont lancé cette lutte-là. Ça devient les médecins du MLAC aux yeux de tout le monde. Et je dis que c'est les deux piliers, parce que c'est vraiment d'abord le planning et le GIS qui font ce pari de créer un grand mouvement qui vient soutenir. En plus, l'idée, c'était de créer un mouvement de masse, selon les termes de l'époque, donc avec vraiment un ancrage parmi les classes populaires, pour soutenir le mouvement. Et en fait, très rapidement, dans les groupes qui sont là lors de la création du MLAC, il y a des groupes d'extrême gauche, donc soit trotskistes ou maoïstes, il y a quelques représentants de groupes MLF, des représentants des associations familiales populaires. Donc il y a quand même une diversité d'individus qui se réunissent pour créer le MLAC, et ça se retrouve au niveau local. Au niveau local, il y a aussi des militants, militantes du PSU, autant que de la LCR. En fait, selon les configurations locales, on a différents réseaux militants qui se retrouvent aussi avec des concurrences au sein même d'une ville. On peut avoir un comité MLAC plutôt dominé par les Mao, un groupe Choisir plutôt dominé par la LCR, et puis un groupe dans lequel qui a été plus pris en charge par des féministes. Ou, voilà. C'est quand même très, très variable et d'une ville à l'autre, voire d'un quartier à l'autre. Et aussi important, il y avait des MLAC hôpitaux, des MLAC entreprises et des MLAC lycées. Donc voilà, qui se réunissaient à l'échelle d'un lieu de travail ou d'un lieu d'études.
Ok. Très bien. Et ben peut-être on va se faire une petite pause musicale avant de continuer.
Allô le Black, bonne nouvelle. Il paraît qu'enfin c'est voté. Cette fois on la tient la loi Veille. Les femmes vont pouvoir avorter. Tout va très bien, ma petite dame, c'est la fête. Tout va très bien, tout va très bien. Mais cependant, je vous arrête, on vit sur un tout petit rien. Il n'y a pas de nuit à l'hôpital, de ce côté ça va plutôt mal. Le directeur vraiment y est pour rien, dans quelques mois ça ira bien. Allô le Blanc, bonne nouvelle, à Saint-Antoine il y a des ligues. Vous voyez bien, allons-y, je vous emmène. Avez-vous vos certificats? Et oui, madame, le premier, le deuxième et le troisième pour faire le poids. Avez-vous vu le psychologue, le planning et le sociologue? Avec tout ça, c'est certain, ma petite dame, le médecin vous apportera. Allô, le blanc, dépasser les 10 semaines, le bon délai pour avorter. Tout va très bien, ils vont faire un curetage. Pas de karma, ils connaissent pas. Anesthésie, plus de jours d'hôpital, ça vous coûtera 60 000 balles. Et c'est pas cher, au prix qu'elle bat. Moitié du SMIC, un vrai bonheur. C'est fait pour les braves gens, pas les salopes, évidemment.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 avec l'émission Dégenrée, l'émission féministe pour déranger. Mais qu'est-ce que c'était cette musique, ce morceau de musique, cette chanson?
C'est une chanson qui a été écrite par des membres du MLAC Place des Fêtes. Donc c'était un MLAC parisien qui réunissait des femmes vivant plutôt dans le 19e et 20e arrondissement parisien. Donc. Et c'est une chanson donc, qui, pour le coup, on fait un saut dans le temps. Elle est écrite après la loi Veil. Et elle vient faire un peu un bilan de ce qui se passe. Donc, en effet, bonne nouvelle, c'est bon, la loi Veil existe. Eh bien non, et tous les couplets nous disent combien c'est compliqué d'accéder à l'avortement. Okay. Et elle est notamment chantée lors du procès du MLAC d'Aix-en-Provence en mars 1977.
Super, merci. Donc pour revenir sur plus les pratiques du MLAC, donc des différents MLAC, certainement, il y a des choses qui se retrouvent et des choses qui diffèrent entre les différents comités locaux, les différents collectifs, etc. Mais, on a évoqué la pratique de l'avortement, mais qu'est-ce qui se passe dans les MLAC, en général, à partir de 73?
Ouais. Alors déjà, peut-être commencer par dire que tous les MLAC ne pratiquent pas. Alors, il y a plein de groupes MLAC qui, avant tout, ouvrent une permanence, ouverte toutes les semaines, une permanence d'information auxquelles se rendent les femmes et des couples pour pour s'informer sur des questions d'avortement, de contraception et de sexualité. Ça, c'est vraiment le point commun à tous ces groupes. Et puis, des actions de propagande et d'intervention dans diverses manifestations publiques. Et puis, un certain nombre de groupes passent à la pratique. Ça, c'est vraiment le vocabulaire consacré, la pratique. Donc, la pratique toute seule, ça veut dire, en fait, l'action directe de l'avortement par aspiration. Et donc, dans les différentes villes, on sait qu'il y a des groupes qui pratiquent, avec des médecins ou sans médecins. Et bien souvent, cette pratique sans médecins, elle part pas d'une position idéologique, mais vraiment d'un besoin. En tout cas, dans les groupes sur lesquels j'ai enquêté, notamment Lille et Aix-en-Provence, c'est parce que aucun médecin ne souhaite s'engager, et elle les sollicite beaucoup, ne souhaite s'engager en tout cas directement dans la manipulation de la canule pour faire des aspirations. Alors elles se disent, eh bien, qu'à ça ne tienne, ce sera nous, on va se former. D'autant que le GIS et d'autres groupes de médecins critiques, y compris à Grenoble, à Marseille et ailleurs, ont énormément promu la simplicité du geste de l'aspiration. Et donc, tous ces groupes pratiquent, mais alors déjà dans des lieux différents. Les groupes que j'appelle à majorité médicale, bien souvent, louent des appartements qui deviennent des lieux proto-médicalisés. Donc, c'est à la fois des logements et puis qui ont plein de caractéristiques de l'espace domestique, dans ce cas de confortable, la musique, les coussins, etc. Mais qui vont être adaptés quasiment en cabinet médical, avec salle de repos, salle d'attente, salle d'intervention, etc. Et puis, les MLAC à majorité profane, où les avortements sont pratiqués d'abord par des non-médecins, vont pratiquer à domicile. Soit le domicile d'avortante quand elle propose une pièce, soit le domicile d'une des militantes. Et ça tourne toutes les semaines. Donc ça, c'est une première différence. Et ensuite, il y a beaucoup de différences, et je dirais surtout qu'il y a plus le temps passe, plus il y a des pratiques différenciées, et encore plus après 1975, puisque une fois la loi Veil passée, l'avortement devient en partie IVG à l'hôpital, et là, le contraste entre les pratiques militantes à domicile et les pratiques à l'hôpital. Il ne fait que grossir. En plus, il y a une technicisation de l'avortement avec l'intervention de l'échographie, de l'anesthésie. Donc là, on est sur des pratiques de plus en plus différentes. Et la différenciation centrale, elle se joue sur la place donnée au ce qu'on dirait aujourd'hui le soin. C'était pas forcément le mot le plus utilisé. Les militantes ont beaucoup utilisé le terme d'environnement, d'ambiance, avec une attention très très forte mise sur la convivialité, sur le confort des femmes. Donc globalement, les femmes avortaient plutôt, dans les groupes disaient, il nous faut une table solide. Donc c'était la table installée avec plein de coussins, des couvertures, vraiment faire un endroit confortable. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les femmes n'avortaient pas en position allongée, mais une position quasi assise. Donc quand je dis beaucoup de coussins, c'est vraiment pour qu'elles puissent être relevées au maximum et comprendre tout ce qui se passe, voir ce qui se passe, pouvoir même participer si elle le souhaite, et puis avec une présence de militante tout autour d'elle, c'est-à-dire pas seulement celle qui intervient face à elle avec la canule d'aspiration, mais il y a aussi souvent une autre personne qui est derrière pour passer le matériel ou qui tient la lampe et qui aussi apprend en même temps. C'est une position d'apprentissage. Il y a souvent une femme qui tient les jambes. Évidemment, il n'y a pas d'étrier gynécologique, donc pour éviter les crampes, on aide si c'est nécessaire. Et puis, il y a au moins deux femmes qui sont à la tête. Elles disaient, alors elles ont toutes leurs expressions pour dire, nous on était joue à joue ou toujours les yeux dans les yeux. Mais c'est vraiment une espèce de fusion des cordes, Donc les entretiens moi, que je faisais 40 ans après, c'est parmi les moments les plus émouvants. Et les personnes étaient très émues quand elles se remémoraient ça. Certaines parlent de... D'une hypnose, d'autres disent j'essayais de prendre la douleur. Enfin, il y a vraiment des expressions très fortes qui revenaient et beaucoup aussi le mot cocon. On crée comme un cocon autour des femmes qui avortaient. Et quand je dis que le contraste est fort avec les groupes à majorité médicale, il faut quand même pas non plus l'exagérer au sens où dans ces groupes-là, c'était aussi des femmes qui assuraient ce rôle de soutien et avec une division qu'on dirait aujourd'hui, une division genrée du travail abortif, avec les médecins, hommes ou femmes, qui tenaient la canule et celles qui assuraient tout le soutien émotionnel, la parole avec les femmes, la respiration commune, le regard, les caresses, enfin toute cette tendresse, c'était les femmes que les médecins avaient qualifié d'intermédiaire. Terme sur lequel elles ont essayé de revenir, mais qu'elles n'ont jamais réussi à complètement annuler, et qui en fait suffit à résumer la hiérarchisation des tâches qui était très présente dans ces groupes-là. Mais voilà, quand je dis qu'il ne faut pas exagérer, c'est-à-dire qu'il y a quand même un savoir commun entre les intermédiaires des MLAC à majorité médicale et les militantes des MLAC à majorité profane. Et elles ont échangé des savoirs aussi. Mais la suite... de la pratique montre quand même une différence importante, jusqu'au point où les MLAC à majorité médicale ont été très loin dans la mise à contribution des avortantes. Et plus qu'une mise à contribution, en fait, quand elles disent que l'avortement était collectif, dans ce collectif, c'est pas seulement les militantes qui pratiquent l'avortement, mais est incluse l'avortante. Donc, il y a la proposition de poser elle-même le spéculum, donc après avoir regardé au miroir, elle participe aussi au toucher vaginal, parce que le toucher vaginal c'est deux mains, donc elle proposait à la femme qui avorte de faire la main abdominale pour sentir la taille de l'utérus, la forme, donc même à ce niveau-là qu'elle puisse sentir ce que sent l'intervenante. Ensuite, il faut dilater le col de l'utérus. Elle pouvait introduire avec le miroir et avec l'aide des militantes les dilatateurs. Et pareil pour la canule d'aspiration. Et ça, les médecins avaient beaucoup de mal à le croire. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu des conflits sur « moi, j'aimerais bien venir voir ce que vous faites ». Puis en face, une militante qui lui répondait « pas du tout, vous n'allez pas venir voir parce que c'est complètement voyeur. Vous n'avez qu'à changer ce qu'il y a dans votre tête. Et puis, vous verrez que c'est possible, que les femmes peuvent participer ». Et moi, ce qui m'a frappée, c'est que 40 ans après, des médecins me racontaient que ce n'était pas possible, ce qu'on m'avait raconté. D'une part, que les militantes, mon médecin, ne pouvaient pas savoir faire un toucher vaginal, puisqu'il faut apparemment des années d'études en gynécologie pour savoir le faire. Que, soi-disant, cette participation des avortantes à leur propre avortement est impossible à concevoir.
Et du coup, parce que j'imagine de participer à son propre avortement et aux gestes dits médicaux, en tout cas médicalisés, ça doit aussi changer les rapports à la douleur et aux sensations et à ce qui se passe. Enfin, la douleur dans un sens très large qui peut être émotionnel ou physique, quoi.
Ouais. Les ex-militantes que j'ai interrogées, elles faisaient souvent la comparaison avec d'autres actes de soins. Elles disaient, mais finalement, quand tu désinfectes toi-même une plaie, tu ne sens pas la même chose que si c'est une autre personne. Et donc voilà, elles mobilisaient ça pour bien comprendre l'idée qu'en fait, à partir du moment où on considère que la femme sur laquelle on intervient, donc déjà, doit avoir accès à l'information. Ça, c'était... Je l'ai dit, le truc commun à tous ces MLAC. On dit aux femmes ce qu'on est en train de faire sur leur corps et ça change déjà tout. Là, voilà, je suis en train de... J'ai fini la dilatation, on va pouvoir commencer l'aspiration, je vais introduire ça. Donc, il y a évidemment, voilà, savoir où on en est, quel geste est pratiqué. En plus, on peut éventuellement le voir au miroir. Il y a aussi, en fait, pratiquer l'avortement au rythme qu'indique la femme. C'est-à-dire que si, à un moment donné, et pas forcément par la parole, mais aussi par ses réactions du visage, on voit que c'est nécessaire d'arrêter, voilà, demander est-ce que continue, est-ce que tu veux qu'on ralentisse. Donc voilà, c'est à son rythme. Et la faire participer à certains moments, bien sûr que ça change toutes les sensations. Et la douleur, qui est en fait quelque chose sur lequel en fait les groupes ont plus ou moins réfléchi. Et évidemment, à partir du moment où on intègre davantage les femmes, on réfléchit aussi plus à ces sensations et notamment à la place de la douleur. Parce qu'il faut bien penser que des femmes qui étaient tellement soulagées d'avoir bientôt le ventre vide n'ont pas forcément exprimé aussi ces douleurs. Elles n'ont pas forcément dit si ce qu'on leur disait depuis le début, depuis la première permanence, c'est un acte simple, rapide et indolore. Bon, on ne se sent pas forcément autorisé à remettre ça en cause. Et en fait, les mois de pratique ont montré que c'était un peu plus compliqué que ça, que c'était plus ou moins bien vécu, et qu'en effet, certaines femmes, au bout de la dizaine ou de la quinzaine de minutes d'intervention, quand on leur disait « c'est fini », elles n'en croyaient pas leurs yeux, et vraiment, elles en doutaient, « c'est pas possible, c'est pas fini, j'ai rien senti ». Et pour d'autres, ça pouvait être très douloureux. Et douloureux, à la fois, on pourrait dire, c'est vraiment des sensations de l'ordre du somatique et du physiologique, mais il y avait aussi une part très subjective de la douleur, comme dans tout acte, puisque les militantes avaient bien remarqué que c'était plus douloureux quand l'avortement s'inscrivait dans un parcours pas du tout évident, que l'avortement, c'était à la fois... C'était un choix aussi dans un non-choix par rapport à la vie du moment de cette femme, soit des histoires amoureuses, soit des histoires économiques, vraiment, et que dans d'autres situations, elles auraient préféré garder cette grossesse. Là, elles avaient très bien remarqué que la douleur était plus forte. Et aussi les femmes dont c'était la première grossesse. C'est une histoire sans doute de col...
De souplesse
du col, entre autres. Elles avaient bien remarqué que c'était plus compliqué.
Et peut-être aussi, est-ce que c'est possible que ce rapport à la douleur et cette manière de parler de la douleur soit liée au vécu de l'avortement en général, et que par exemple dans des pratiques d'avortement que des personnes par exemple qui avaient déjà vécu des avortements sans la méthode par aspiration et du coup connaissent d'autres douleurs avec la dilatation du col, la pose d'une sonde pendant plusieurs jours, des fois des curetages, ça fait des expériences de douleurs vraiment différentes, enfin beaucoup plus fortes.
Complètement. C'est même incomparable. Puis des douleurs et sur un temps assez long. Donc c'est à la fois le vécu parfois répété de douleurs. Donc l'avortement, c'était forcément cette expérience. Puis avec un gros mélange de culpabilité qui ajoute encore à la douleur. C'est compliqué de se reprojeter dans l'esprit de l'époque, mais c'est la culpabilité et la honte tombent encore sur l'avortement aujourd'hui. Je ne suis pas en train de surestimer le changement dans les esprits, mais quand même, il y a quelque chose d'incommensurable sur ce qu'est ce que c'était l'avortement dans l'esprit des femmes et dans les vécus. Et même pour les femmes qui n'avaient pas vécu ces avortements très douloureux, que ce soit des avortements qu'elles avaient intégralement faits en dehors de la sphère médicale ou qui s'étaient soldés par un curetage à l'hôpital, certains médecins pratiquaient les curetages à vif, donc sans aucune anesthésie, et ajoutaient à ça des insultes. Et après l'avortement, ajouter tout un tas d'actes de culpabilisation. C'est assez courant qu'on me parle des cris des bébés dans la chambre d'à côté, voire dans la chambre. Il y en a une qui explique qu'elle s'est réveillée avec un poupon à côté d'elle, sans la mère de l'enfant. Donc c'est juste, on place un bébé au réveil. Bon, et ce genre d'anecdote, c'est pas si rare. Donc l'intégralité du parcours est censée être douloureux. Et même pour celles qui n'ont pas vécu ça, l'avortement dans les têtes, c'est le danger. C'est morbide, c'est mortel. Et donc, c'est une projection d'un parcours très compliqué, très long. Il y a la chasse aux adresses avant. Après, on se demande sur qui on va tomber, dans quelle mesure il va nous maltraiter, de quelle manière. Donc, en effet, à côté de ça, les douleurs ressenties éventuellement à ce moment-là, elles ne sont pas vécues de la même manière. Elles ne sont peut-être même pas codées comme des douleurs, tellement le contraste est saisissant.
Parce que du coup, les méthodes d'avortement, il y a toujours eu des méthodes d'avortement et elles ont évolué. Et notamment, elles ont évolué avec cet apprentissage de la méthode par aspiration. Tu veux nous en parler un peu ?
Oui, alors c'est surtout peut-être pour revenir sur cette appellation méthode Carmen qui existe encore aujourd'hui et qui est très problématique alors à plein de niveaux. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le principe de l'aspiration, c'est-à-dire de changer la technique plutôt que d'introduire un corps étranger qui provoque la rupture des membranes et puis l'avortement, là, l'idée d'introduire un objet plutôt pour aspirer le contenu, c'est pas nouveau. Ça date a priori du 19e siècle. Et après, il y a tout un ensemble d'innovations techniques qui sont apportées dans différents pays. Alors, le MLAC parlait beaucoup des médecins aux pieds nus, puisque c'était l'imaginaire très important de l'extrême gauche. Donc, il y avait évidemment, quand la méthode Carman était présentée, il y avait ça qui était dit. C'était une méthode utilisée par les médecins aux pieds nus. Puis après, Harvey Carman, ce psychologue états-unien, lui, il a ramené cette technique. Voilà, il y avait tout un mythe aussi qui était raconté au passage. En fait, c'est tout un tas d'innovations qui étaient apportées au Japon, en Chine, mais aussi dans des pays d'Europe de l'Est. Donc tout ça mis bout à bout, faudrait évidemment raconter cette histoire plus en détail, mais tout ça mis bout à bout aboutit à la méthode par aspiration. Et lui, Harvey Carman, en fait, il était beaucoup dans l'autopromotion, donc il a aussi beaucoup raconté des choses sans doute qu'il n'a pas faites. Il racontait beaucoup d'inventions. Notamment, il y avait un procédé de mini-aspiration ou d'aspiration menstruelle qui, pour le coup, aurait été plutôt inventé par une féministe états-unienne, Lorraine Rotman, et lui disait qu'il l'avait aussi inventé. Donc, il faut bien se figurer que les Parisiens, quand ils le rencontrent, en 72, et qu'il transmet tout ça. En plus, il a écrit. Donc, c'est pas seulement qu'il leur montre la méthode. En plus, il leur transmet des articles avec tout ce qui s'est fait en Californie. Assez naturellement, ils vont lui donner le nom de méthode Carman. Et puis, derrière ce nom, il y a l'héroïsation qu'il y a derrière. C'est aussi une histoire assez classique en médecine de donner et un nom d'une seule personne, alors que c'est bien une histoire collective qu'il y a derrière cette technique, et en plus d'un homme. Et là où c'est très très problématique, et que très peu de féministes savaient en France à l'époque, c'est que Harvey Carman était une figure très controversée aux États-Unis, dans les milieux féministes. Certaines le voyaient quand même un peu comme un sauveur parce qu'il avait une place parmi les réseaux d'avorteurs clandestins, mais d'autres le voyaient d'un très mauvais œil parce qu'il avait testé différentes méthodes d'avortement et de contraception, notamment au Bangladesh et avec des séquelles sur des avortements au deuxième trimestre de grossesse, avec des expérimentations qu'il a faites sur des femmes. Et donc, voilà, il y a sans doute beaucoup plus de choses à dire que ça sur Harvey Carman, et c'est une figure très problématique. Et puis, dernier truc important sur cette appellation, c'est qu'en fait, pour moi, elle vient poser une rupture ferme entre les avortements du passé qui seraient sales, qui se termineraient tous à l'hôpital dans un bain de sang. Enfin, ça va avec cet imaginaire-là, et puis avec l'image infamante des faiseuses d'anges. Voilà, c'est ça, c'est les avortements à la sonde, les mauvais avortements. Et puis arrive le sauveur, ce Carman, et cette nouvelle technique par aspiration, et on basculerait dans totalement autre chose. Et en réalité, des médecins qui avaient fait des curetages me disaient aussi que même au plan technique, il y avait une part du geste qui était en fait assez similaire au curetage. Et donc cette rupture absolument qu'on veut, elle est aussi politique. C'est une manière de raconter l'histoire qui vient à nouveau aussi mettre le couvercle sur des savoir-faire, et notamment des savoir-faire de femmes sur l'avortement. Et pour moi, ce nom-là vient mettre le couvercle là-dessus. Et dernier point important, il vient aussi à l'époque le slogan même de Méthode Carman, qui était dans tous les tracts, voilà, qui était rappelé sans arrêt dès qu'on disait MLAC. En fait, il vient participer à créer comme seul horizon possible l'avortement médicalisé, puisque c'est le slogan introduit par les médecins et qui, le pari de ces médecins du GIS, c'est de justifier médicalement la légalisation de l'avortement. Il a avant tout été défendu au nom de critères de santé plutôt qu'au nom de l'intégrité corporelle des femmes. Et ce slogan-là, il va avec il a saturé vraiment l'espace public à ce moment-là, et c'est le fait de le justifier techniquement, l'avortement, ça a un sens politique aussi.
Merci.
توحشت أمي وفرش الدافي وخويا زين أيامي وصغر أحلامي وبويا توحشت اللين وريحة الياسمين توحشت اللين وريحة الياسمين الحس ودوة جري شوارع كبرى قواس الحومة توحشت اللين والكرمة كيف تمي توحشت اللين والكرمة كيف تمي خزرة وغمزة وعشق الطفلة لولا وقت الكلمة سلي دين محلولة توحشت الخير وريحة الياسمين توحشت الخير وريحة الياسمين توحشت أمي وخرافات الغولة قهوة أختي وضحكة مش مخصورة توحشت سنين وريحة الياسمين توحشت سنين وريحة الياسمين ساكن بر الناس براسي بر بعيد وباقي الحسرة نواسي توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك توحشت اسمك ونفنا باش نلقاك.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec Dégenré, en présence de Lucille Ruault qui nous présente son livre Le Spéculum, la canule et le miroir. Alors, dans les luttes du MLAC, en 1975, il y a la loi Veil, cette fameuse et très connue loi Veil. C'est quoi cette loi alors? En vrai, c'est quoi cette loi?
Alors, donc cette loi, donc en effet, votée fin 74, promulguée en janvier 75. Et alors, d'ailleurs, on entend souvent que c'est une loi de dépénalisation et ce n'est pas... Alors, des juristes avaient analysé le truc à l'époque et elles disaient bien que ce n'est pas une loi de dépénalisation. En fait, elle ne fait que dépénaliser l'avortement dans les termes, dans les conditions précisées par cette loi. Conditions, par ailleurs... L'avortement reste un délit donc c'est encore l'article 317 du code pénal qui intervient en dehors de ces conditions. Alors c'est quoi les conditions ?
C'est la loi de 1920 qui est une loi qui arrive du coup juste après la Première Guerre mondiale et qui, celle que tu évoquais, qui du coup pénalise le fait de promouvoir ou de pratiquer l'avortement.
Ouais, alors la loi Veil avait quand même bougé les choses, justement, pour certaines conditions. Et donc, les conditions. L'avortement n'est en effet légal que s'il est pratiqué par des médecins. Donc là, on voit quand même, dans l'esprit de la loi, en fait, il reflète quand même très bien le lien avec le mouvement social, avec toute l'importance d'arrêter la pratique des avortements dits sauvages à ce moment-là. Deuxième point important, c'est qu'ils doivent être pratiqués à l'hôpital. Et ça, moi, j'ai vraiment le sentiment au cours de l'année 1974 que le mouvement social s'est aussi fortement habitué à l'idée que ce serait à l'hôpital. Ça se voit beaucoup dans les discussions militantes. Le délai de grossesse, c'est 10 semaines. Donc, c'est plus court que ce qu'espéraient les militantes. Les femmes, alors ça relève, on pourrait dire, de l'ordre du symbolique, mais c'est très important. Les femmes sont censées être en situation de détresse. Ensuite, les mineurs qui n'ont pas d'autorisation parentale, les immigrés, les étrangères ont aussi des difficultés d'accès à l'avortement, puisqu'il faut pouvoir prouver avoir résidé sur le territoire. Et évidemment, elle est rapidement qualifiée de loi de classe, puisque le remboursement ne passe pas. Parmi tous les compromis, on la qualifie de loi de compromis, c'est réellement ça, le remboursement non. Donc, c'est très compliqué de donner une moyenne, mais moi j'avais plutôt, en regardant les chiffres, on est plutôt à 700-800 francs pour un avortement, mais sachant que beaucoup d'hôpitaux, enfin un certain nombre, privilégient l'anesthésie générale et aussi pour des questions de rentabilité, là on dépasse facilement les 1000 francs. Donc, évidemment, tout le monde ne peut pas accéder à l'avortement. Et puis, il y a tout un tas d'autres choses, mais ce qu'on peut notamment dire, c'est que c'est un. Il y a tout un tas de mesures qui montrent à quel point la dissuasion est là dès le départ. Donc, c'est le rôle des conseillères, de l'entretien psychosocial. Toute femme qui va avorter doit passer devant une conseillère familiale ou conjugale ou devant une psychologue pour discuter de l'avortement et donc d'une certaine façon rendre des comptes, justifier le recours à cet acte.
Justifier la détresse.
Exactement. Et elle se voit remettre un dossier guide. Qu'y a-t-il dans ce dossier guide ? Les alternatives à l'avortement ? Notamment l'accouchement sous X, donc lui sont rappelées les autres possibilités. Les femmes doivent également signer un papier qui, en gros, dit qu'elles sont conscientes des risques. Alors, quels risques ? On ne sait jamais. C'est toujours la question sur l'avortement, de laisser flotter cette idée que l'acte est risqué. Et c'est encore parfois ce qu'on entend aujourd'hui dans des cabinets au moment des consultations pré-IVG, en disant ce n'est pas un acte anodin. Et puis, on laisse ça flotter dans l'air, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Et voilà, donc il y a quand même toutes ces conditions-là. Et donc évidemment, les groupes MLAC disent, mais on n'a pas milité aussi intensivement pendant 18 mois pour avoir ces miettes-là. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de contestations. Ça, on le retrouve très fortement dans les tracts distribués tout au long de l'année 1975. C'est vraiment, évidemment que c'est une victoire. Mais c'est une victoire en demi-teinte. L'insatisfaction est très, très importante et très rapidement, les anciennes du MLAC, je dis anciennes parce qu'en fait, la plupart des groupes MLAC disparaissent en 75 ou 76, mais elles disent que c'est une loi qui exclut tout un tas de femmes et qui fait des différences entre les femmes, qui divise les femmes. Puisqu'en effet, les femmes, en particulier, l'insistance sur les femmes pauvres, qui de toute façon ne peuvent toujours pas avorter.
Et du coup, il y a une partie des MLAC qui continue.
Oui.
Continue la pratique de l'avortement.
Voilà. Et alors, il y a quand même, au cours de l'année 1975, un certain nombre de... Les comités ne s'arrêtent pas du jour au lendemain, ne peuvent pas laisser tomber comme ça les femmes, mais très rapidement reconvertissent leur activité. en militant pour l'ouverture des services. Donc elles font des sit-ins dans les hôpitaux notamment, il y a des séquestrations de directeurs d'hôpital, enfin, il y a tout un tas d'actions. Donc l'idée c'est d'accompagner l'institutionnalisation et puis le temps passant, en fait un certain nombre de groupes s'arrêtent complètement de pratiquer des avortements. En plus, comme tous les étés, c'est compliqué, c'est très compliqué de trouver des militantes l'été. Donc l'été 75, c'est un gros coup d'arrêt sans doute. Et donc en fait, on se retrouve en 1976 avec une poignée de groupes qui continuent, plus ou moins le revendiquant. Ce que je vois, moi, c'est que les Lilloises, elles continuent de fait. Il y a un renouvellement militant. Le groupe s'oriente d'ailleurs vers une non-mixité. Ce que j'ai pas dit depuis le début, c'est que c'était largement un militantisme en mixité. Même s'il y a une critique qui rapidement a émergé dans des groupes sur, en particulier sur la présence des hommes pendant les avortements. Et puis, il y a un groupe qui va le revendiquer haut et fort, le fait de continuer cette pratique malgré la loi Veil, c'est le MLAC d'Aix-en-Provence, et qui va devoir le revendiquer encore plus fort, puisque elles ont, six militantes sont, du MLAC d'Aix sont inculpées, ce qui donne lieu en 76, et ça donne lieu un procès en mars 1977. Et donc là, tout l'enjeu, ça va être de remobiliser les anciennes du MLAC pour défendre... Alors, tout le monde ne va pas être sur cette ligne-là, mais pour légitimer cette pratique militante d'avortement extra-hospitalière.
Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord donc, avec cette pratique extra-hospitalière ?
Oui, même parmi... les anciens réseaux alors soit les sympathisantes, soit celles qui étaient directement actives dans les groupes là qui choisirent, un certain nombre critiquent le fait de continuer cette pratique. Alors, critiquent plus ou moins explicitement, plus ou moins frontalement, mais les militantes ont le souvenir que c'était pas du tout facile au niveau local et qu'elles ont essuyé quand même quelques insultes. Et surtout, un scepticisme, un gros scepticisme. Alors, à Lille, ces mêmes militantes qui parfois étaient engagées en parallèle dans des groupes femmes, et notamment l'une d'entre elles dans un groupe femmes qui était donc plutôt lutte de classe, très régulièrement, soit on se moquait d'elle, soit on l'a traitée, donc l'insulte consacrée, c'était Bonne Sœur Rouge. Et puis, jusqu'à produire aussi un discours sur l'illégitimité totale de ces MLAC qui continuaient, puisque ça représentait des structures parallèles à l'hôpital public. Donc, c'était quasiment une espèce de trahison à la cause, puisqu'il fallait avant tout mettre toute l'énergie sur le service public. Ce que je vois, moi, que ce soit que pour le MLAC d'Aix ou pour le MLAC de Lille, et puis les autres MLAC qui reprennent la pratique. Alors, le MLAC Place des Fêtes, en fait, c'est une espèce de fusion d'anciennes du MLAC 19e, d'un MLAC dans le 20e et d'un MLAC dans le 12e. Elles reprennent la pratique après le procès d'Aix, donc à partir de 1978. Et puis il y a le MLAAC de Lyon, Mouvement pour la liberté de l'avortement, de l'accouchement et de la contraception. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'incompatibilité à leurs yeux. En fait, elles ont été à la fois dans une contestation de ce qui se faisait à l'hôpital, soit dans les discours, donc, puisque les femmes étaient très souvent mal reçues, donc tous les discours de dissuasion, de culpabilisation, ou alors elles allaient à l'hôpital pour défendre l'ouverture de services, pour dire qu'il n'y avait pas assez de lits, dire que la pratique était mal faite, etc. Et en parallèle, eh bien, elles pratiquaient les avortements. Et les Lilloises écrivaient ça dans un tract. En fait, elles le disaient, nous, on veut que les femmes aient le choix. Et le choix d'avorter où elles veulent. Si elles veulent aller à l'hôpital, eh bien, il faut que les services soient ouverts et fonctionnent bien. Et si elles veulent avorter avec nous, eh bien, elles peuvent avorter avec nous. Mm-hmm. Et peut-être même dans des lieux autogérés, si on arrive un peu à pérenniser la chose.
Et du coup, elles tiennent des permanences. Elles continuent de tenir des permanences et d'organiser des permanences pour permettre ça.
Oui. Elles continuent les permanences hebdomadaires et certaines n'ont donc jamais arrêté. Donc les permanences sont ouvertes. Ce que je retrouve dans les archives, c'est que ça ne désemplit pas. Ça, c'est assez étonnant, mais entre 1975 et 1979, même 80, en fait, chaque semaine, il y a beaucoup de monde. Et Et il y a notamment les exclus de la loi, mais pas que. On en parlait hier avec toi, Fabienne. Il n'y a pas seulement les exclus, toutes celles que j'ai citées, les femmes pauvres, les femmes immigrées, les femmes en dépassement d'élu, etc. Mais il y a aussi des femmes que ça ne rassure pas du tout d'aller à l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à projeter avec notre esprit d'aujourd'hui, de recours à la médecine, et qui s'est même un peu plus répandu entre classes sociales. Mais moi, certaines me racontent en entretien, donc ça paraît contre-intuitif. Ah, mais moi, ça me rassurait beaucoup qu'il n'y ait pas de médecin. J'étais beaucoup plus à l'aise avec ça. Et donc, ça me paraissait tout naturel d'aller au MLAC. Et puis, c'était un parcours plus simple. Il n'y avait pas cet accueil froid et abrupt que je projetais sur l'hôpital. À l'inverse, certaines avaient accouché à l'hôpital et avaient subi des maltraitances.
Oui, donc. Ça, c'est vrai que la question de la maltraitance à l'hôpital, pendant les accouchements, ça a beaucoup, beaucoup compté sur le fait que les femmes qui avaient déjà eu des enfants se retrouvent au MLAC lorsqu'elles ne voulaient plus pas en avoir d'autres. Et ce côté des permanences, c'est vrai que c'était complètement extraordinaire. Bon, à Aix, on faisait les permanences dans un petit cinéma qui s'appelait l'Arsenal. Et dans ce cinéma, au fauteuil rouge, tout à fait, vraiment un merveilleux petit cinéma. Bon, les femmes étaient là, installées sur les fauteuils, au début un peu tendues, un peu inquiètes. Et puis assez rapidement... Une femme qui avait avorté quelques jours avant ou quelques semaines avant prenait la parole et racontait en fait comment s'était passé son avortement. Et donc ça, immédiatement, ça libérait l'angoisse que génère en fait le fait d'avorter et ou de subir dans son corps une intervention. Et par rapport à ce que tu dis, Lucille, sur le fait que certaines se sentaient bien, enfin certaines n'envisageaient même pas d'aller à l'hôpital, hein. C'était vraiment c'était même pas un choix, c'était voilà, on se retrouve là parce que de toute façon on n'est pas que paumé, on est aussi dans un rapport de confiance. Certaines avaient très peu accès au monde médical, la médecine les effrayait un peu, c'était un autre monde. Et se retrouver, et puis c'était un peu dans une continuité aussi dans les mémoires. Bon, les avortements, ça ne se pratique pas forcément... à l'hôpital. Bon, les femmes les ont toujours pratiquées, et même si l'accent était mis sur les avortements complètement dramatiques, et il y en a eu, il y avait quand même cette mémoire très ancienne de femmes qui pratiquent en dehors des structures. Voilà. Et c'est vrai que dans les permanences, très très rapidement, les femmes étaient assez rassurées. Et la réassurance se faisait ensuite aussi dans les petites réunions précédant l'avortement. Donc les femmes qui allaient avorter ensemble se retrouvaient chez l'une d'entre elles ou chez l'une d'entre nous. Et là, les militantes du MLAC expliquaient très très concrètement comment ça allait se passer. Il y avait un côté déjà très très sororal, si j'ose dire, qui faisait que bon, cette mise en confiance était là. Et ça, ce rapport de confiance, ce rapport de savoir ce qui va se passer, parce que la plupart du temps, les femmes qui consultent des médecins quand elles les consultent, et particulièrement des gynécologues, c'est une intrusion dans leur corps et c'est pas du tout. Et donc elles savent absolument pas d'abord la plupart du temps comment elles sont faites et ensuite ce qu'on leur fait. Et là, il y avait tout d'un coup un champ de connaissances qui s'ouvrait et un partage, puisque c'était en général que des femmes au MLAC d'Aix. Il y a eu deux hommes et puis il y a eu la décision prise de faire les permanences, de faire l'accueil, de faire les avortements non mixités. Et ça, ça a été un moment assez extraordinaire. Bon, les femmes se retrouvaient entre elles, donc une parole se libérait. Certaines avaient des histoires de vie qu'elles pouvaient poser là, sans crainte de jugement ou de peur d'être dénoncée. Enfin, la parole était libre. La parole était libre et cette parole, ben, c'était pas toujours évident de la prendre pour les femmes, mais petit à petit, elles arrivaient quand même à dire un peu des choses. Et voilà. Et puis après, il y avait les avortements eux-mêmes, qui étaient faits par, comme tu l'as bien dit, tu l'as très très bien raconté, des petites équipes de femmes qui, pour la plupart, avaient déjà avorté. Donc ça posait d'emblée celles qui allaient avorter et celles qui faisaient les avortements sur un pied complètement, complètement d'égalité. Et comme c'était des femmes qui avaient l'air heureuses et bien dans ce qu'elles faisaient, donc ça rassurait aussi beaucoup, beaucoup les femmes qui allaient avorter. Et donc, et c'est vrai que ces avortements se passaient dans des... C'était très rapide, ça durait 15-20 minutes, à peu près. Et donc c'était des moments extrêmement chaleureux et intenses. Et l'avortement, bon, comme tu disais, celle qui tenait la canule était là au même titre que ces fameuses intermédiaires, ce mot absolument horrible, ces fameuses, je sais pas moi comment dire, accompagnantes. Chantait des petites chansons, tenait la main, le regard avait une importance incroyable, plongé dans les yeux de l'autre. C'est vrai que ça permettait de vivre ce moment un peu autrement. Il y avait la douleur, mais qui était surmontable, et puis ça durait assez peu de temps. Et quand c'était terminé, on proposait aux femmes, évidemment, de... Si elle voulait regarder le contenu donc de l'aspiration, un petit bocal. Et donc certaines acceptaient de voir, et c'était pour elles une découverte absolue de voir que c'était pas grand-chose. C'était, voilà, à partir du moment où on décide que... Contrairement à ce qui se passait à l'hôpital, on leur parlait de bébé. Moi, je me souviens, on leur parlait de bébé à 8 semaines de grossesse. Là, elles voyaient que, voilà, c'était... Et que le bébé, l'enfant, c'est vraiment la construction, le désir qu'on en a qui fait que c'est un enfant. Quand on n'a pas ce désir-là d'enfant... c'est un peu comme dans la chanson d'Anne Sylvestre. Non, non, tu n'as pas de nom, voilà... Voilà.
Merci. Eh bien, on arrive vers la fin. Peut-être on pourrait faire un petit point, parce qu'on a parlé un peu de la loi Veil, mais de dire où on en est maintenant, parce que, par exemple, la mention de détresse n'est plus là. La semaine de réflexion non plus.
La consultation psychosociale, elle n'est plus là. Enfin, en tout cas, plus obligatoire pour les femmes majeures. Enfin, elle est... Alors, il y a quand même un truc pervers là-dessus, parce qu'il y a certains services qui ne disent pas qu'elle n'est pas obligatoire. Et donc, moi, je constate toujours qu'il y a beaucoup de femmes qui passent encore par la consultation psychosociale parce que c'est, de fait, inclus dans le parcours. Après, maintenant, c'est 14 semaines de grossesse. En fait, depuis 2001, en particulier, il y a eu tout un tas, d'avancées législatives importantes, et tant du point de vue, symbole, comme cette situation de détresse, qu'en pratique, sur un accès élargi.
Mais ce n'est toujours pas un droit.
En tout cas, oui, pas un droit par rapport à l'enjeu de la constitutionnalisation.
Oui. Juridiquement, c'est toujours pas un droit.
C'est dépénalisé dans un certain cadre.
Exact. C'est encore ce qui prévaut. Oui. Et puis, il y a un truc quand même qui est très important, qui a transformé les pratiques, c'est l'avortement médicamenteux depuis les années 1990. Mmh. Et aujourd'hui, 80% des avortements en France se font par la méthode médicamenteuse. Donc ça veut dire que la méthode par aspiration, donc qui est si rapide, n'est quasiment pas utilisée. C'est pas du tout, comme on pourrait le penser, une question de choix des femmes. En fait, il y a plein de services où, pareil, de fait, le choix n'est pas laissé. En fait, normalement, les femmes doivent avoir le choix de la méthode médicamenteuse ou instrumentale, mal appelée chirurgicale dans plein de services. Donc évidemment, ça dissuade aussi des femmes. Elles n'ont pas la vraie information sur ce que c'est que cette méthode par aspiration. Et puis, elles devraient avoir le choix entre anesthésie locale et générale si elles choisissent la méthode instrumentale. En réalité, dans beaucoup de services, le choix, c'est déjà fléché par avance. Donc, elles se retrouvent avec la méthode médicamenteuse. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de témoignages sur la douleur et la solitude.
La solitude.
Qui vont évidemment ensemble. Et moi, quand je faisais des entretiens auprès des anciennes du MLAC, beaucoup insistaient là-dessus en disant mais c'est quand même fou, ce qu'on avait combattu en premier sur cette solitude, on croyait l'avoir chassé par la porte et c'est revenu par les fenêtres, par cet avortement médicamenteux. Et on a complètement sous-estimé les effets sur les vécus des femmes.
Alors ça, on a parlé de ta thèse, mais maintenant tu fais d'autres choses. Tu veux nous dire deux mots
Disons que, pour le dire de manière très large, je continue à la fois sur l'encadrement social de la procréation et puis ce que j'appelle les savoirs hétérodoxes de santé, en tout cas d'autres manières de concevoir le corps. Et récemment, avec une collègue, Sarah Desmar, maintenant quelques années, on fait des entretiens avec des personnes qui ont choisi de ne pas se vacciner contre le Covid. Et là, c'est passionnant au niveau à la fois des expériences de stigmatisation, là encore autour de choix corporels, et puis d'autres manières de concevoir le corps, l'immunité et de défendre certaines pratiques de santé. Donc voilà, il y a une continuité à mes yeux importante entre ces pratiques. Et par ailleurs, dans les activités qui sont à mi-chemin entre activités universitaires et militantisme, il y a la revue Nouvelles questions féministes. Je suis dans le comité de rédaction et donc, je vous conseille fortement la lecture.
Et donc, on peut trouver ton livre dans toutes les bonnes librairies, aux éditions ENS, et sous le titre « Le spéculum, la canule et le miroir ».
Oui, il est jaune flashy, on le voit.
Très bien, et ben merci beaucoup pour toutes ces discussions et toutes ces informations.
Ben merci Ernest, merci Fabienne, merci à toutes pour votre accueil.
Merci à la technique.
Et bonne soirée.
Et bonne soirée sur Radio Campus Grenoble. Au revoir.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La la, la.